Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Salut tout le monde, vous êtes bien sur le 87.7 Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. Aujourd'hui, on parle du nouveau livre de Philippe Lacoche, Marais Jardin, chronique du pêcheur jardinier, disponible aux éditions Les Soleils Bleus. Des chroniques vous permettant de naviguer au cœur de la nature pour exorciser le confinement. Pour nous en parler, j'accueille bien évidemment Philippe Lacoche. Bonjour.
Bonjour Daphné.
Donc vous n'en êtes pas à votre premier livre, d'où vient cette passion et cette envie de l'écriture ?
Oula, oui, c'est vrai que je suis pas mon premier livre. Je suis un vieillard, presque. J'ai 65 ans, donc j'ai dû commettre, bon, je sais même plus, 45 bouquins à peu près, quoi, à peu près. Bon, certains sont épuisés, certains sont petits, certains étaient des commandes, mais enfin, peu importe. Alors, pour répondre à votre question plus précisément, le goût de l'écriture, ça remonte à très loin. D'abord, je rends hommage à ma mère, qui avait à peine, je ne sais même pas si elle avait le certificat d'études, contrairement à mon père qui, lui, pour l'époque, était cheminot, mais je viens d'un milieu très simple, hein. Mon père était cheminot, mais il avait ce qu'on appelait le brevet élémentaire, donc c'est l'équivalent du bac. À l'époque, c'était pas n'importe quoi, c'était presque une licence, voire une petite agrégation.
Oui, c'est sûr.
En ces années lointaines. Et mon père, lui, était plutôt un intellectuel, il s'intéressait beaucoup, à la politique, à la géopolitique, à la intéressée au monde, quoi. Et ma mère, elle était plus rêveuse et malgré son niveau d'études extrêmement bas, je ne sais pas lui faire injure que de dire ça, elle le reconnaissait. Elle adorait lire et elle adorait nous lire des. Alors elle nous lisait ma grande sœur, mon petit frère et moi, elle nous lisait avec gourmandise des petites histoires, enfin de l'époque. Et ça. Inévitablement, ça a éveillé mon imaginaire littéraire. Elle m'a communiqué cela, je crois. Et très rapidement, quand je suis allé à l'école, mon bonheur, autant je peinais un peu comme beaucoup de petits écoliers, je peinais sur les calculs, on n'appelait pas ça mathématiques encore, et autant quand il s'agissait de raconter des petites histoires, alors c'était pas la dissertation, c'était après, bien sûr, c'était les rédactions, alors j'adorais ça, c'était comme une récréation. C'est assez mignon, et vous aussi, je suppose.
Oui.
Et c'était une gourmandise pour moi, j'étais ailleurs. Alors j'ai gardé cela, et après j'ai découvert moi-même la lecture, grâce à ma mère, à la faveur, si on peut dire, sur mon lit de souffrance, j'avais 6 ou 7 ans, de l'appendicite, sa copine Ginette, à l'hôpital de Chauny, était venue me voir, elle m'avait ramené Tintin au Tibet, je me souviens. Alors là, émerveillé.
Ah, les Tintins, émerveillé. Oui, c'est...
Oh, Tintin,
c'est quelque chose.
C'est quelque chose, oui. Alors, et quand je suis rentré, après ma courte convalescence, je me suis mis à faire des petits dessins, et surtout des bulles dans lesquelles je racontais des petites histoires. Vous voyez, c'est né là, et après j'ai eu quelques... Bien sûr, d'excellents enseignants des hussards noirs de la République à l'époque. Ils n'étaient pas toujours très, un peu bourrus, un peu sévères, mais ils ont fait passer auprès de moi les grands textes, des auteurs qui m'ont marqué. J'ai lu le Grand Maulne à 13 ou 14 ans, donc
oui,
au moment de des émois adolescents. Et là, c'était vraiment un bonheur, et ça a contribué après, très rapidement, j'ai continué à écrire, et j'écrivais des petits poèmes, des petites proses, et puis après je suis devenu journaliste, parce
oui.
que j'avais l'arrière-pensée de devenir un jour écrivain, ou en tout cas, de pouvoir écrire un maximum de textes, c'était comme un plaisir, quoi.
Et oui, voilà, c'est une bonne alternative.
Journaliste comme ça, et... Pardon ?
C'est une bonne alternative.
Oui, tout à fait, c'était une excellente alternative, parce que voilà, en plus, moi, j'ai fait beaucoup, j'ai travaillé à la presse parisienne spécialisée, bien sûr, je viens de la presse rock, parce que j'ai commencé chez Best il y a fort longtemps, mais très rapidement après, parce que j'ai une vie de famille, et il a fallu que je revienne en province, donc j'ai fait beaucoup de local, je me suis vraiment colleté, si on peut dire, avec le terrain et la réalité, avec de très beaux et de merveilleux moments, et puis des moments plus durs.
Bon,
oui, j'ai fait divers beaucoup, j'ai fait du judiciaire, etc. Bon, enfin voilà quoi. Et maintenant, je suis à la retraite. Bon, enfin, je suis encore un petit peu pour le coin picard.
Et parlons un peu de votre œuvre. Vous pouvez faire un petit résumé un peu et nous expliquer ce qu'il y a dedans?
Oui, mon œuvre, oui, bah, comme on le disait tout à l'heure, bon, je crois qu'il y a 45 ou 46 bouquins. Alors, mon premier livre édité, si on peut dire, c'était une commande.
Oui.
Alors, j'étais arrivé chez Best en 77, avec Christian Lebrun, Patrick Edlin, que je revois maintenant, Brenda Jackson, toute la bande. Un éditeur qui travaillait un peu de loin, plus ou moins, oui, après ça s'est concrétisé plus régulièrement, qui travaillait avec Best, qui s'appelle toujours, je crois que ça existe toujours, les éditions Jacques Grancher, un éditeur qui, voilà, un peu généraliste, mais qui faisait un bon travail, hein, et une bonne diffusion, etc. Rue de Vaugirard, je me souviens, il était. Et le fils qui s'intéressait de près au rock, Philippe Grancher, qui était lui-même musicien, un garçon avec qui je m'entendais bien, a repéré mes articles, et une fois, il m'appelle, il me dit Philippe, est-ce que ça te dirait de faire un bouquin sur les grandes voix du rock? Alors, j'étais un peu étonné, un peu intimidé. Moi, j'avais jamais fait de bouquin. Je dis, allons-y. Et en quelques mois, en 3 ou 4 mois, j'ai accumulé de la documentation, j'ai rédigé, ça lui a plu, et j'ai sorti mon premier livre aux éditions Grancher. C'est une sorte de d'essai, si on peut dire, sur les grandes voix du rock. Ça s'appelait Les Ténors du rock. Alors, je crois qu'il est épuisé depuis longtemps, mais on le trouve maintenant encore sur des sites spécialisés en collector, si on peut dire. Sur les fans de rock, je sais qu'ils l'achètent encore, et il y a des gens qui les revendent. Enfin, c'est l'économie du livre qui est comme ça, voilà. Et puis après, j'ai écrit un vrai roman, parce que dans ma carrière de jeune journaliste et de jeune écrivain, j'ai été aidé par deux personnes à qui je rendrai toujours hommage, deux grands résistants que j'avais rencontrés quand j'étais en local du Courrier Picard à Beauvais. L'un s'appelait Paul Morel, magnifique monsieur, enfin une belle âme, quoi, socialiste à l'ancienne, un pivertiste, et qui m'a beaucoup beaucoup aidé, qui lui m'a fait rentrer, qui m'a mis en contact avec un éditeur qui s'appelle Patrick Ledrapier. Il n'a plus sa maison, mais Patrick, à ma connaissance, est toujours en activité. Enfin, je l'espère pour lui, en tout cas. Et Patrick m'a commandé chez sa petite maison d'édition, les éditions Le Drapier, donc, un premier essai encore sur le rock français. Alors, un essai, je ne suis pas essayiste, pourtant je suis journaliste, mais j'ai plus l'âme, je suis plus dans l'imaginaire, ou en tout cas dans l'écriture littéraire, que dans l'écriture purement journalistique ou universitaire, enfin, de réflexion. Je suis plus dans
l'imaginaire
dans l'imaginaire, c'est ça.
Dans l'écriture académique.
Donc, je lui ai fait un peu culotté. Je lui ai fait un roman autobiographique que j'ai appelé Rock d'ici. Alors ça, je l'ai écrit en 2 mois, j'écrivais presque jour et nuit, et où je racontais mon arrivée à Paris, mon arrivée chez Best, l'avènement du punk avec les Sex Pistols, les Damned, les Clash, bien sûr, que bon, j'avais vu, Téléphone, Trust, enfin, toute l'arrivée de le retour du rock avec le pub rock et surtout l'avènement du punk. Et puis, je parlais de moi, enfin, de façon un peu égotiste, mais avec beaucoup d'autodérision aussi. Je parlais un peu de mes amours parfois défuntes, ou mes amours actuels, enfin voilà, la rencontre avec mon ex-femme, la maman de mes deux enfants. Et tout ça, je mettais ça, j'ai fait une sorte de roman autobiographique, je me dis, ça passera jamais. J'ai envoyé ça à Le Drapier, Paul Morel l'a lu, et ils ont adoré. Et puis ils m'ont dit, banco, on le sort. Je crois que j'ai pas eu changé une virgule, si ce n'est les coquilles, les petites fautes d'orthographe que j'avais faites. Mais ils m'ont pas, voilà, ils l'ont pris comme ça, ça a été publié. C'était mon premier roman, premier vrai roman.
Et dans votre nouvelle œuvre, qu'est-ce que ça raconte exactement? Votre nouvelle œuvre, qu'est-ce que ça raconte?
Mon Desjardins. Ah oui. Si, je voulais rendre hommage juste à la personne qui m'a aidé. C'est aussi un autre grand résistant,
oui.
Ami de Roger Vaillant. C'est Jacques-Francis Roland, qui habitait à Noailles, enfin près de Beauvais. Voilà, c'est fait. Alors, ma nouvelle œuvre s'appelle Mars et Jardins. Ce sont des chroniques initialement que j'avais écrites pour le Courrier Picard.
D'accord.
Et que j'ai réécrites en partie. Alors, ça se passait pendant le confinement, mais tout le monde a écrit pendant le confinement, c'est pas très original. Moi, j'ai pris un a priori particulier. Je me suis dit, je vais raconter ce que je fais, comme je jardinais un peu. J'ai un petit jardin, Faubourg de Hans, un petit jardin où je me baladais. Je parlais un peu des animaux que je croisais, des oiseaux, des semis que je commençais à faire, enfin, des petites anecdotes. Et puis, bien sûr, avec des souvenirs, une chronique un peu à l'ancienne. Bon, voilà, qui ont bien marché parce que le courrier a eu des retours.
Oui.
Et puis la deuxième partie, ce sont des chroniques que j'ai proposées là. Comme je suis pêcheur à la ligne, j'adore ça. Je suis allé pêcher dans les mares des villages, les mares qui sont souvent des exutoires ou qui servaient à faire boire les chevaux. Certains villages, heureusement, les ont gardés. Et je sais que parfois il y a des poissons, donc je suis allé tester. Puis je raconte un peu ça. Donc c'est un peu cinglé comme truc. Les gens me voyaient pêcher dans leur petite mare. Là, les villageois, les voix venaient me voir. Enfin, je demandais bien sûr à chaque fois l'autorisation aux autorités locales, au maire,
oui,
enfin, etc. Quoi. Mais c'est voilà. Donc c'est ça. Ce sont des petites chroniques sans prétention aucune, assez simples, qui parlent de notre beau département de la Somme, qui parle aussi d'Amiens. Et
vous y avez une attache particulière?
Quoi. Pardon ?
Vous y avez une attache particulière, j'imagine.
Oui, bien sûr. Oui. Enfin, je suis originaire de l'Aisne.
Oui.
J'étais très malheureux quand la Picardie s'est transformée en Hauts-de-France. Je n'ai rien du tout contre nos amis du Nord et du Pas-de-Calais. Bien sûr, loin s'en faut, ils sont charmants. Mais je trouve que la Picardie avait une identité extrêmement forte,
oui,
et très particulière. Voilà, on a une histoire, on a toujours été extrêmement fidèles. La Picardie avait comme la fidélité comme de son blason en héraldique, fidélité à la fois à la royauté, au pouvoir des rois, mais fidélité après à la République. Et c'est une région qui a été extrêmement meurtrie avec trois invasions de nos bons amis d'Outre-Rhin, qui ont martyrisé cette région. Et voilà, je fais partie de ces Picards qui se souviennent, quoi. Et sans revanche, mais qui se souviennent et qui sont vigilants.
Oui.
Voilà. J'ai pas voulu faire allemand en seconde, en deuxième langue. J'ai préféré faire l'Espagne. Aux grandes dames de mon père, parce que mon père, qui était vif, il me dit, t'es con, vraiment. Il dit, parce que quand ils reviendront une quatrième fois, tu les comprendras pas. Mais je lui dis, écoute, papa, ça fait rien, mais j'avais le nazisme, pas le peuple allemand que j'adore, que je respecte et que,
oui,
j'admire. Mais le nazisme, je ne leur pardonne rien.
Oui, c'est sûr.
Ça revient régulièrement dans mes bouquins. C'est l'horreur absolue c'est la barbarie absolue. Et voilà. Je leur souhaite pas paix à leur âme s'ils en ont une.
Oui,
j'ai dit.
Je comprends bien. Et justement, dans votre œuvre, vous avez,
oui,
une préface qui a été faite par Franck Maubert. Donc pourquoi avec,
oui,
cet auteur en particulier? Qu'est-ce que sa vision apporte à votre livre?
Oh là, Franck, c'est une vieille amitié. D'abord, on se connaît depuis des années. On se voit pas souvent, mais enfin, on se voyait à Paris avant les pandémies, tout ça. C'est un écrivain que j'aime beaucoup, qui a eu le prix Renaudot de l'essai, justement. C'est un très bon romancier. Et nous avons en commun une passion qui est la pêche à la ligne. Alors, c'est assez marrant parce que l'été, quand on pêche, lui dans son département du Loir, je crois,
oui,
où il pêche dans le Loir, enfin peu importe, et moi dans l'étang du courrier Picard à Argueuvre, et on s'envoie des SMS avec nos prises, souvent quand on prend un beau brochet ou quand on prend une belle tanche ou une carpe, et on s'envoie avec des petits commentaires, on rigole beaucoup. Alors, quand j'ai eu besoin, comme mon éditeur Philippe Lorenzo, à qui je rends hommage aussi, bien sûr, parce qu'il a fait un beau travail, quand Philippe m'a proposé de faire éventuellement une préface, j'ai tout de suite pensé à Franck, je lui ai proposé, et puis voilà, en avant, il m'a fait une très belle préface. Je trouve qu'il a tout compris, entre pêcheurs on se comprend, il y a une fraternité de la Gaule, si on peut s'exprimer ainsi, ou de la passion de l'eau et du monde halieutique, et donc on se comprend. Et voilà, il m'a fait une belle préface à la fois précise, celle d'un pêcheur passionné, et puis une préface littéraire, et puis il a compris un peu la modeste démarche de ce petit livre, et je crois que voilà, il a bien compris.
Et justement, en parlant de passion commune, je vous propose de faire une petite pause en écoutant une,
oui,
des chansons que vous avez écrites avec votre frère Renaud Lacoche. Donc une chanson,
oui,
tirée de votre pièce de théâtre qui sera montée en 2022, La Marche des Marchés.
Oui. Exactement, merci.
Vénérons l'Europe des marchés, celle qui ne sert qu'à consommer. La sociale, on n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est juste faire des affaires. Merci bien, cher Emmanuel Tancron. Ultra libéral, oui, nous t'aimons. La sociale, on n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est juste faire des affaires. Cassons encore les services publics et tous les acquis de la République. La sociale, on n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est juste faire des affaires. Puis bousillons toutes les frontières. Des prolétaires, il en reste à traire. La sociale, on n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est juste faire des affaires. La fausse gauche est bien sûr avec nous. Les sociaux traîtres et les mous du genou. La sociale, on n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est juste faire des affaires. Le MEDEF reste notre préféré. Les patrons, on aime les choyer. La sociale, on n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est juste faire des affaires. Notre Europe, elle est en forme d'euro ou de marque, ça on ne sait plus trop. La sociale, on n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est juste faire des affaires. L'Europe est une grosse culotte de peau qui taxe les pauvres et les prolos. La sociale, on n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est juste faire des affaires. Oui, la sociale, on n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est juste faire des affaires. La sociale, on n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est juste faire des affaires.
Donc vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens, vous écoutez Info Club Sandwich. Je suis avec Philippe Lacoche et nous parlons de son nouvel ouvrage, Marais Jardin, chronique du pêcheur jardinier. Donc la pièce, la musique que nous venons d'écouter est tirée d'une pièce que vous allez monter en 2022. Vous écrivez des pièces, est-ce qu'elle est en rapport avec votre chronique ?
Non, ça n'a aucun rapport. Là, c'est une pièce, c'est la suite d'une première pièce que j'avais écrite il y a 3 ans, je crois, à peu près, édité au Castor Astral. Cette pièce s'appelle L'écharpe rouge, et elle a été montée et jouée par un troupe amiennois qui s'appelle le Théâtre de l'Alambic, Thierry Griot et Philippe Benzon, enfin de toute une équipe, et ils avaient très bien travaillé. Là, j'ai écrit la suite, et finalement, pour diverses raisons, cette pièce n'a pas pu être montée par le Théâtre de l'Alambic. C'est vraisemblablement mon ami Jean-Michel Noiret, avec sa troupe de théâtre qui mettra en scène, ou en tout cas dans un premier temps qui organisera les lectures en 2022. Et bah, cette pièce, c'est la suite, donc bah, c'est une pièce complètement foutraque, qu'il faut prendre bien sûr au second degré, et qui est très anticapitalistique, qui fait apparaître des personnages complètement dézingués, complètement broyés, un peu moitié fous, rendu fou en partie par le capitalisme, qui n'est pas mon ami, rendu fou aussi par les nouvelles technologies qui ne sont pas non plus mes amis. Et ben voilà, c'est une pièce burlesque, avec des excès, avec... Alors il y a beaucoup de gens qui la première l'avaient prise au premier degré, donc qui m'avaient traité un peu de vieux réac, bon, je peux l'être, hein, ça me dérange pas, mais qui m'avait un peu dit, trouvé que j'étais un peu anti-féministe. Je n'ai jamais été anti-féministe, je suis anti-ultra-féministe, c'est autre chose.
Oui,
alors
sûr.
Celle-là, effectivement, celle-là est un peu dans cette même veine, voilà, enfin j'espère, je ne sais pas, je ne me fais pas trop d'illusions, je ne sais pas comment elle sera reçue, mais la première était très tranchante. Il y avait d'un côté les gens qui avaient adoré, qui avaient rigolé et qui avaient compris le deuxième degré, mais ceux qui en étaient restés au premier degré étaient restés un peu pantois et pas très contents, quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu.
Oui, c'est
quand
sûr.
On écrit, quand on s'expose, bah, il faut accepter les critiques. Ça, je les accepte avec beaucoup de bienveillance. Voilà.
Et quels sont vos projets pour 2022 ? Un autre livre ?
Mes projets ? Oui, alors j'ai un recueil de nouvelles qui est en lecture, un recueil de nouvelles assez Ouais, enfin un costaud qui va faire 200 pages à peu près, avec une quinzaine de nouvelles.
Oui.
Des textes assez courts, des textes, des nouvelles un peu plus longues, des nouvelles qui tournent autour de, que vais-je vous dire, il y a le thème fédérateur serait plutôt voilà, l'amitié, la fraternité et l'absurdité de la vie, quoi. En fait, c'est un peu ça.
D'accord.
Et bon, avec des nouvelles différentes, il y a des petits contes aussi, des petits, de courts récits. Ça fait une sorte de patchwork qui sont voilà, qui sont autour un peu à la fois de la fraternité et de l'absurdité de la vie. Pourquoi, comment tient-on sur ce, dans ce monde un peu difficile? Et ben voilà, ça repose un peu là-dessus. Et ça, j'espère que ce sera, ça paraîtra en 2022, j'espère, on verra bien. Et puis
c'est
sinon,
ben
oui, il y a ma petite pièce, la suite qui va être éditée. Cette pièce dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai oublié de dire le titre, ça va s'appeler, tenez-vous bien, pourriture, avec un point d'exclamation.
Ah,
c'est
oui,
le premier mot que lance l'un des personnages. Voilà. Pourriture, il est très en colère. Et voilà, donc j'ai titré là-dessus. Et puis voilà, attendez, j'oublie rien. Puis je continue bien sûr à faire des chansons avec mon ami Hervé Zerouk, avec mon frangin sur Z, Renaud Lacoche. Et puis, bah voilà, je continue à lire et puis m'occuper de ma petite chienne Simone, mon bulldog français, et puis essayer d'aller à la pêche. Voilà. La vie d'un retraité, d'un vieux, quoi. Voilà. Qui n'a pas encore eu le Covid. Et c'est pour les vaccins. J'invite tous les Français et les Picards à se vacciner. Nom de Dieu. Voilà. Hein. Vaccinez-vous. Voilà. J'ai fait mon message. Gardez-le ou pas. Hein, parce que vous êtes forcément. Chacun fait ce qu'il veut, mais bon.
C'est sûr.
Moi, je suis pour le vaccin.
Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à l'émission.
Ben, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. J'espère pas avoir été trop bavard. C'était
non.
Très gentil. Et puis, vive Radio Campus, hein, faut continuer.
Je vous laisse avec une des chansons écrites que vous avez écrites en compagnie du chanteur guitariste des Désaxés, Hervé Zerouk.
Oui.
Petit enfer,
oui,
rue de paradis.
Exactement, voilà.
À bientôt.
À bientôt, là.
Je bois une bière en terrasse, petit soleil à la ramasse, temps de septembre, rue de paradis, et la serveuse est si jolie. Les lycéennes papillonnent, et ma libido s'abandonne devant leur selfie si sexy, petite biche rue de paradis. Devant tant de jeunesse, je me sens désaxé. Serait-ce la vieillesse ou la frivolité? Serais-je du vieux monde et elle du nouveau? Si je préfère les Kings et elle la techno. La belle serveuse s'appelle Lola, je lui recommande une Stella. Les lycéennes parlent de garçons, de coucheries et de suçons. Les biches tapent sur leur clavier des SMS en 4G à leurs jeunes amoureux high-tech qui leur répondent aussi sec. Devant tant de jeunesse, je me sens désaxé. Serait-ce la vieillesse ou la frivolité? Serais-je du vieux monde et elle du nouveau? Si je préfère les Kings et elle la techno. Puis c'est Lula qui me sourit, dois-je lui proposer un selfie? De cela il n'est pas question, j'écris mon phone sur l'addition.